Voilà, alors peut-être je me présente un peu. D'abord, merci de m'inviter à cette belle journée sur la non-violence. Tellement convaincue depuis longtemps, 40 ans magistrat, que la loi structure nos comportements privés et nos comportements intimes. C'est vrai que, oui, je fais attention à l'heure. je vais essayer de vous en parler brièvement parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne depuis 40 ans. Maintenant, je suis à la retraite. Et ben, j'en profite un peu pour réfléchir encore à ces sujets. Et j'aimerais simplement vous reporter à l'époque où je suis rentrée dans la magistrature. À l'époque, j'étais juste des enfants dans le Nord. Et le procureur n'était même pas destinataire des procédures de viol sur les enfants. Seul le juge des enfants souvent l'était, faisait des mesures d'assistance éducative. Et les pères n'étaient pas poursuivis sur le plan pénal. On mettait un éducateur dans la famille en espérant que l'ordre allait revenir. Voilà, donc on vient de loin. C'est vrai que je vais un petit peu vous parler de ça. Alors mon cursus, je suis désolée, je suis un peu obligée de m'asseoir. Mon cursus, en fait, j'ai exercé un peu toutes les fonctions dans la magistrature. J'ai été procureur, j'ai été juge d'instruction, tout ça pendant une dizaine d'années à chaque fois. J'ai été juge des libertés et de la détention, j'ai été, je ne sais même plus, juge des enfants, évidemment. Et dans toutes ces fonctions, j'ai pu voir comment l'intime pouvait faire l'objet de protection et puis de poursuites pénales pour les auteurs au travers, je dirais, de façon transversale dans toutes ces fonctions. Donc c'est un petit peu compliqué de vous en parler aujourd'hui en totalité, mais je vais quand même essayer. Quelques principes fondamentaux, à mon avis, c'est que tout d'abord, il faut savoir que la loi pénale n'est pas là pour créer des normes sociales. C'est vraiment important de le comprendre, ça. On n'est pas là pour ça, même si après, il y a une circulation entre ce que la société peut faire en termes de prise de conscience et qui se répercute ensuite dans la loi. D'autre part, quelque chose qui me paraît très important, mais souvent c'est un peu abstrait, la loi, elle est là pour définir les interdits. Et pourquoi elle est juste là pour ça? C'est pour délimiter l'espace qui reste pour nos libertés. Je crois que c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire que la loi pénale, surtout la loi pénale, mais aussi la loi civile, elle n'est pas là pour réglementer ce que doivent vivre les gens sur le plan privé. On est juste là pour dire, voilà ce qu'on ne veut pas. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une période extrêmement intéressante où tout bouge. Alors, vous voyez peut-être pas encore beaucoup les évolutions. Moi, j'ai un peu envie de parler même de révolution. Mais les évolutions existent et je vais un petit peu vous en parler. Voilà. Alors, on m'a demandé de parler évidemment du consentement. Ce qu'il faut savoir alors, je vais vous parler simplement d'un arrêt qui vient de sortir de la Commission européenne des droits de l'homme du 23 janvier 2025, vous voyez, qui est très récente et qui est très intéressante et qui a sanctionné la France pour une décision qui faisait référence au devoir conjugal considéré comme une faute susceptible de fonder un divorce pour faute. La Convention européenne des droits de l'homme a dit non, ça n'est pas possible. Le devoir conjugal, si on le refuse, ça n'est pas une faute, d'où l'idée de consentement, puisque par définition, on avait peut-être coutume de penser que dans le mariage, il y avait une obligation de devoir conjugal, une obligation de sexualité. Aujourd'hui, l'Europe nous dit non, donc il va falloir peut-être qu'on revoie notre loi sur le divorce. Évidemment, on peut divorcer, mais on ne pourra pas divorcer pour faute. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire « je divorce, je demande le divorce parce que j'estime que le refus de relation sexuelle constitue une faute au regard de la loi sur le mariage ». Donc c'est quand même une jurisprudence extrêmement intéressante, une décision très intéressante qui fait en plus suite à une jurisprudence de 1990, vous voyez, c'est quand même pas récent, disait, parce que c'est la Cour de cassation qui a admis que le viol entre époux existait. Donc depuis 1990, le viol entre époux existe. Ça veut dire que il peut y avoir du non-consentement dans un couple marié. Voilà, c'est important. Alors, deux mots là où le consentement ne devrait jamais, 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 jamais être examiné. Et ça, je peux vous dire que je me suis battue pendant toute ma vie. C'est difficile de vous dire tout ça parce que je me suis beaucoup bagarrée. J'ai un peu de temps en temps arrêté parce que j'étais un peu en lutte contre beaucoup de choses, notamment par rapport à la façon dont les tribunaux géraient les dossiers, comment on s'organisait, comment on pouvait faire mieux. Et puis après, je me suis mis à être un petit peu plus constructive. J'ai travaillé pour des lois. Et puis maintenant, je suis quand même contente que les choses bougent. Mais là où ne devrait jamais être examiné le consentement, c'est quand il y a une relation sexuelle entre un enfant et un adulte. Et ça, mais je pense que vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai entendu dans mon bureau, que ça soit procureur, juge d'instruction, juge des enfants, mais elle était d'accord. Même d'un enfant de 3 ans avec un grand-père. Quand je dis ça, en général, on ne me croit pas parce que... Mais les psychologues que vous êtes peut-être parmi vous savent bien le fonctionnement projectif de ces gens-là. Hein. Je ne désire pas l'enfant, c'est l'enfant qui me désire. Ça, c'est fondamental. Il faut que je mette plus près, pardon. Et voilà, donc moi, je me suis beaucoup bagarrée contre ce truc-là. Je me suis dit, mais la loi ne doit jamais se demander si l'enfant est consentant ou pas, parce qu'il n'y a pas de consentement possible, puisque c'est un enfant. Ça n'empêche que jusqu'à la loi de 2021, 21 avril 2021, eh bien, les juges étaient obligés de se poser la question de la contrainte. Est-ce que l'enfant était contraint d'accepter ça? Ce qui, de mon point de vue, était un véritable scandale, d'abord parce que la loi ne protégeait pas l'enfant, et puis c'est une façon de dire aux enfants, bah, tu vois, il y a un espace de liberté où tu peux avoir une relation sexuelle librement consentie avec un adulte. C'était ça le message. Et c'était le message aussi à l'égard de l'adulte. Donc il a fallu attendre 2021 pour que ça change. Et je peux vous dire que avant 2021, j'ai créé une proposition de loi qui avait été soutenue, qui n'est pas arrivée à terme. Enfin, j'ai vraiment contribué, avec d'autres évidemment, à essayer de changer ça. On y est arrivé avec cette loi de 2021 qui maintenant crée une interdiction d'une relation sexuelle entre un enfant et un adulte pour un enfant de moins de 15 ans quand il y a un adulte dans la réciprocité sexuelle et dans l'inceste, moins de 18 ans. Ce qui est d'ailleurs contestable parce que toute la vie, on est l'enfant de ses parents. Ça pourrait être un peu toute la vie, hein, ça. Alors, maintenant, les relations sexuelles entre adultes. Vous savez, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, que le viol, l'agression sexuelle, est constitué quand il y a les conditions de violence, contrainte, menace ou surprise. Soit un de ces éléments, soit plusieurs. Le terme consentement, on n'en parle pas. Et actuellement, c'est vrai que c'est la discussion. Est-ce qu'il faut mettre le terme consentement dans la loi? Vous savez peut-être, pour certains d'entre vous d'ailleurs, que l'Assemblée nationale vient de voter une loi en ce sens. Alors, est-ce que c'est vrai de dire que la loi actuelle est insuffisante? J'ai un peu varié. Dans un premier temps, j'ai pu me dire, entre adultes, hein, j'entends, hein, entre adultes, j'ai pu dire contrainte, violence, menace ou surprise, c'est peut-être suffisant. D'ailleurs, pour l'affaire de Mazan, on a quand même réussi à condamner les auteurs, même si il n'y avait pas de terme non-consentement dans la loi. Hein, on y est quand même arrivé. Mais c'est un peu vrai quand même que la loi actuellement met le projecteur uniquement sur l'auteur, ses stratégies pour parvenir à la relation sexuelle, et pas grand-chose sur la victime, sauf par ce petit biais de la contrainte, qui d'ailleurs marche quand même un peu, parce que la jurisprudence a quand même un peu, je dirais, réparé les trous dans la raquette, en comblant un peu par des décisions ponctuelles ce qu'il fallait faire pour que ça change. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en Europe aujourd'hui, on a été convaincu qu'il fallait changer ça et mettre le terme consentement dans la loi? C'est la Convention du Conseil de l'Europe, c'est la Convention d'Istanbul ratifiée par la France en 2014. 15 pays de l'Europe sur 27 qui ont adopté la loi avec le terme consentement. Un avis du Conseil d'État du 11 mars 2025, vous voyez, c'est vraiment tout neuf, hein, qui est un avis positif sur la nécessité d'inclure le consentement dans la loi, suite au rapport Le Grévio, chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Alors, la réforme en cours, l'Assemblée nationale vient de la voter. Donc, il va vraiment, c'est d'actualité que vous ayez pu le mettre dans votre agenda aujourd'hui. L'Assemblée nationale a voté donc en début de navette le 1er avril 2025 et le consentement est pour la première fois en France dans la définition des infractions sexuelles que sont le viol et l'agression sexuelle. C'est une avancée majeure de mon point de vue. Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement, c'est ce que dit la loi. Il doit être spécifique et peut être retiré avant ou pendant l'acte. Mais surtout, ce qui me paraît vraiment capital, et je l'ai beaucoup dit avant que cette loi passe, j'ai dit, il faut que le consentement soit apprécié au regard du contexte. Pourquoi? Juridiquement, quand on doit évaluer le consentement, c'est au moment des faits. Or, dans de multiples situations, et souvent les situations les pires, la femme dit oui au moment des faits, mais au regard du contexte, elle est totalement victime. Ce sont toutes les femmes victimes de contrôle coercitif. C'est une notion nouvelle, mais ça y est, qui a été adoptée dans notre code pénal. La notion d'emprise. Et puis toutes ces jeunes filles, et on n'en parle pas assez, qui souvent sont très jeunes, sont pour 56% des victimes, des mineurs victimes de prostitution, et qui se prostituent volontairement, alors qu'en réalité, elles sont évidemment à protéger et victimes, et que la loi pénale doit les protéger. Donc ça, c'est un véritable souci, le fait que la loi qui est passée devant l'Assemblée nationale vise les circonstances environnante, vraiment, c'est une très très grande avancée. En deux mots, pour ceux qui n'ont pas entendu ce terme, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, le contrôle coercitif, c'est une notion qui a été intégrée comme infraction autonome dans notre loi très récemment, le 28 janvier 2025. C'est le but de consentir à la soumission. En fait, c'est ça le contrôle coercitif. Donc, au moment des faits, il y a consentement, mais il n'y a pas de consentement au regard du contexte. Donc, voilà, c'est la prise en compte de l'état de sidération et aussi des situations de vulnérabilité. Et la loi dit, pas de consentement si l'acte sexuel est soumis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc, on reprend les termes anciens. Alors, il y a un certain nombre de femmes, d'ailleurs, féministes, hein, féministes et socialistes, qui se sont opposées au changement de cette loi. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit, déjà, on accuse beaucoup les femmes, et maintenant ça va être encore pire parce que, vous savez, la jupe trop courte, etc., le comportement des femmes, ça va être encore pire. Et si on met le terme consentement dans la loi, on va encore plus les faire passer à la moulinette pour savoir si vraiment elles n'étaient pas consentantes. Alors, il y a un certain nombre de gens qui se sont en plus interrogés. Notamment en Espagne, parce que vous savez qu'en Espagne, la loi, le terme consentement, alors dans tous ces pays dont je vous ai parlé où on a introduit le consentement dans la loi, il y a notamment l'Espagne, qui a introduit ce terme depuis 2022. On a une philosophe militante féministe, Clara Serra, qui est une femme extrêmement intéressante, qui a écrit notamment un livre sur la doctrine du consentement. On a également une directrice de recherche du CNRS, Geneviève Fraisse, qui a écrit un article qui s'appelle Un mot trouble et troublant sur le terme consentement et qui dit il est nécessaire d'abandonner l'idée que le terme consentement serait la recette magique. Les discussions actuelles s'épuisent dans les tentatives de définition du consentement et n'offrent qu'un discours hégémonique à la société. La loi espagnole, hein, qui a déjà 3 ans, affirme désormais que s'il n'y a pas de consentement explicite, c'est une agression, créant ainsi corrélativement l'obligation de fixer une définition incontournable de ce que doit être un consentement dans la multiplicité et la diversité des relations humaines. Je suis un peu d'accord avec ça. Alors, je vous explique, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer la loi. Moi, je pense qu'il faut la changer, ne serait-ce que pour se mettre en conformité avec l'Europe, à laquelle je crois beaucoup. Et je pense que plutôt que consentement, qui est un terme un peu vague, difficile, je pense que le terme volonté serait peut-être un peu plus facile à comprendre, en tout cas pour les auteurs. Et moi, je proposais une infraction qui serait plutôt celle-là. Tout acte sexuel commis dans un contexte, toujours le contexte, démontrant l'absence de volonté manifeste de participer à l'acte ou l'impossibilité de manifester un accord constitue un viol quand il y a pénétration et ou agression sexuelle quand il y a attouchement avec des circonstances aggravantes, quand il y a violence, menace, contrainte physique ou morale et la surprise. Et ça, ça vise les situations de sidération, de contrôle coercitif, d'emprise, de vulnérabilité. Je suis infiniment reconnaissante à toutes ces femmes qui, dans le monde entier, signent pour dire que les choses doivent changer dans les rapports entre les sexes, ou même entre gens de même sexe d'ailleurs, puisque les viols aussi existent dans l'homosexualité. Mais moi, je pense que la loi doit être complètement universelle. Et je trouve que c'est très très bien de pouvoir réfléchir à ce que on puisse mettre comme terme qui parle à tout le monde. Et j'ai peur que le terme consentement, ça soit quelque chose d'un peu abstrait. Et c'est ce que critiquent certaines personnes. Et moi, j'en fais partie parce que je pense que de mettre le terme volonté, ça serait plus clair. Voilà, mais enfin bon, ça n'engage que moi, hein, vous le soumets. Voilà, donc cette révolution de l'intime, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'elle est en route. Je suis évidemment obligée de vous parler de cette espèce d'impuissance qu'ont les juges et qui classe beaucoup trop sans suite, parce que la loi était là aussi hein, pour ne pas les obliger à tenir compte de ce fameux consentement hein, qui maintenant est dans la loi. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Sénat, puisque maintenant la loi est en navette au Sénat et que le Sénat vient de rendre un mémoire, là, comment elle s'appelle, ça a été rendu il y a 2 jours, alors vous voyez, je vais vous donner son nom. Oui, dans son rapport du 26 mars, un peu plus que 2 jours, qui est tout à fait conforme à ce que dit l'Assemblée nationale. Donc le Sénat va la voter, hein, je pense, cette loi. Mais je pense quand même que l'insuffisance du nombre de juges, 2 fois moins de juges qu'en Allemagne, 3 fois moins qu'en Europe. Que peuvent faire les magistrats dans des conditions pareilles ? Donc, on fait le maximum, voilà, mais on peut pas beaucoup plus. Vous allez tout à l'heure parler, j'en suis désolée parce que je vais être obligée de partir, parce que j'habite loin et que je suis obligée de rentrer, mais vous allez parler de la justice restaurative, j'y crois, mais énormément. Je pense que la voie pénale, c'est pas forcément la meilleure des lois, parce que devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises ou la chambre criminelle, les auteurs et les victimes n'échangent pas trop, alors que la voie restaurative, c'est vraiment une voie qui reconstitue les relations. Et j'y crois énormément. Et c'est vrai que si j'étais un petit peu plus jeune, j'en ai 70, je m'investirais vraiment là-dedans. S'il y a des gens qui ont envie de travailler là-dedans, vraiment, c'est la voie. Intéressez-vous à la justice restaurative, c'est passionnant. Voilà, je m'arrête parce que je crois que j'ai fait mon temps. Hein. C'est bon ? Oh, ben, c'est parfait.